Bonsoir. Alors que les vacances de la Toussaint se poursuivent, comment ceux qui ont choisi de partir en congé en France ont-ils rejoint la Côte d'Azur, le Pays Basque ou la Bretagne? Oui, on a l'impression que, voilà, que ce soit le train, l'aérien, la voiture, chacun fourbit ses armes. On voit Hop Air France est bien contraint de répondre à un TGV qui met désormais 2 heures entre Paris et Bordeaux. Laquelle SNCF va déployer ses Ouigo à Montparnasse? La SNCF confrontée eh bien au covoiturage, au low cost, hein, eh bien notamment, et aux autocars, bien entendu. La concurrence, elle est de plus en plus vive. Alors, qui gagnera la bataille de France? Qui profitera de cette révolution du transport? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Je suis sûr que ça vous concerne, je suis sûr que ça vous intéresse justement. Oui, le choix entre l'avion, le car, le covoiturage, le train, bien sûr. On va en parler avec Philippe Mangeard. Philippe Mangeard, il est président de l'agence de notation TKBlue, spécialisée dans les transports, dans la mobilité. Audrey Détry, responsable France et Benelux de Trainline, qui est distributeur de billets de train sur Internet. C'est l'ancien capitaine train. Autre actrice du secteur, Hélène Abraham, la directrice générale de Hop Air France. Et puis Yvan Lefranc Morin, directeur général de Flixbus. Alors, Philippe Mangeard, en préambule, hein, je le disais, on a l'impression que dans l'aérien, dans le train, dans la voiture, finalement, chacun aiguise ses armes. Hein, oui, comparatif, train, avion, voiture. Comment choisir? Comment est-ce qu'on choisit les paramètres pour choisir?
Il y en a un premier qui fait foi, c'est les 1000 km.
Ouais.
Au-delà de 1000 km, il n'y a pas de photo, c'est l'avion.
C'est l'avion.
Sauf si on adore le tourisme, la promenade, etc. Et en dessous de 1000 km, donc dans l'Hexagone ou dans les pays frontaliers, c'est une affaire de ce qu'on veut, ce qu'on cherche, quoi. Bon, la vitesse, le nombre d'affaires, le confort, le tourisme, la sécurité, la flexibilité. Moi, je suis le patron d'une agence de notation du transport, donc j'espère aussi l'empreinte environnementale. Et certain que l'environnement, ça fait partie de notre quotidien aujourd'hui. Et dans le transport, encore plus que notamment. Bon, l'avion a fait beaucoup de progrès, mais ça reste quand même un mode beaucoup plus consommateur d'énergie que le train. Le bus, pourquoi pas.
Le train n'est pas non plus aussi vecteur de green. Hein.
Le train, aujourd'hui, n'est pas si bleu-bleu ou blanc-blanc ou vert-vert. Ça dépend de l'énergie qu'il alimente. Ça dépend s'il est diesel ou électrique. Donc, en France, on a l'électricité. Ça dépend d'où vient l'électricité. Bon, sans rentrer dans un débat technique, le train a quand même beaucoup d'avantages. Mais des bus, puisque je vois qu'il y a quelqu'un du car en face de moi. Le bus est lui aussi très, très performant aujourd'hui avec des Eurocars, des Euro 6 et des bus à gaz. On va très, très loin pour pas cher en termes environnementaux. Et pas cher au niveau de prix.
Alors, les critères, on les voit, ils sont extrêmement nombreux. Alors, Hélène Abraham, donc à la tête de Hop Air France, hein, 600 vols quotidiens, c'est bien sûr la fameuse navette entre Paris, Orly, et puis Marseille, Bordeaux, Montpellier, Nice, Toulouse, bien entendu, bien sûr. Alors, tiens, justement, dans l'actualité récente, hein, l'actualité de cet été, vous avez été confronté donc à Bordeaux-Paris en 2 heures sur TGV. Est-ce que le transfert de clients, il a eu lieu entre l'avion, vous, et le TGV?
Alors, chez Hop Air France, je dirais que l'arrivée d'un TGV, c'est pas une nouveauté. Ça fait 20 ans qu'on a vu arriver le TGV sur Paris-Lyon, d'abord, il y a bien longtemps. Et Paris-Strasbourg, qui est même à 1h46 de centre-ville à centre-ville. Et vous disiez, monsieur, tout à l'heure, que la vraie différence, c'est 1000 km. En réalité, c'est pas vrai. Le parcours moyen de notre réseau, qui fait 160 lignes différentes, c'est environ 600-650 km. Et on fait des choses aussi variées. Vous l'avez dit, que la navette, 25 vols par jour entre Orly et Toulouse, que du Lille-Marseille ou du Strasbourg-Bordeaux ou du Brest-Marseille. Après l'arrivée du TGV, oui, évidemment, il y a eu des
conséquences.
Sur Paris-Bordeaux, il y a eu des conséquences, puisque nous venons d'annoncer que le programme d'hiver qui vient de commencer...
Aujourd'hui.
Exactement, aujourd'hui, passe à 10 vols par jour. Donc, c'est toujours une navette entre Orly et Bordeaux, mais c'est un peu moins que...
10 vols par jour au lieu de 14.
Au lieu de 14.
Voilà, donc ça veut dire quoi? Il y a eu vous avez vu une baisse de trafic entre Paris et Bordeaux ou pas depuis le mois de juillet?
Oui, on a vu une baisse de trafic depuis le 2 juillet. Après, je rappelle
combien?
Que tous les trains... Alors, nous avons annoncé que sur Paris, au cumul de janvier à septembre, nous avions perdu 1,5% de
trafic. 1,5%, voilà.
Alors, je rappelle que Paris, pour nous, au départ de Bordeaux, c'est à la fois la navette sur Orly, mais c'est également 6 vols par jour sur Charles de Gaulle, puisque Bordeaux est relié au hub de Charles de Gaulle d'Air France.
Et ensuite, pour repartir sur les Antilles et ailleurs.
Alors, le hub de Charles de Gaulle, c'est surtout le long courrier, le moyen courrier. Les Antilles sont à Orly aujourd'hui et permettent toujours de le faire avec la navette de Bordeaux.
1,5%, ça aurait pu être pire s'il n'y a pas eu cette
panne de signalisation à Montparnasse et si la SNCF n'était pas sujette régulièrement donc à des problèmes de ponctualité.
Alors, je ne donnerai pas de leçons sur la ponctualité. Nous faisons, nous, face à des travaux énormes qui se passent actuellement à Orly.
Ah oui, pour la jonction entre Sud et Ouest.
Exactement, ouais. Entre l'Ouest et Sud. Et toute une série de travaux sur les, ce qu'on appelle les taxis Ouest, c'est-à-dire le roulage des avions au sol, qui nous perturbent énormément en termes de ponctualité. Nous le regrettons vis-à-vis de nos clients, parce que quand on fait des vols très courts, ce qui est vraiment important pour nos clients, en particulier en voyage d'affaires, je pense que c'est la sécurité, la régularité, la ponctualité. La régularité, c'est la disponibilité technique des avions.
Sur la Bretagne aussi, où les trains vont un petit peu plus vite aussi depuis cet été?
Alors, sur la Bretagne, c'est effectivement un enjeu parce que nous desservons au départ de Paris Charles de Gaulle, Rennes, donc ça ne change pas. Non. Mais nous desservons au départ d'Orly, Lorient, Quimper et Brest. Et bien sûr Nantes pour les correspondances.
Et là aussi des baisses de trafic pour
oui,
vous.
Là, on a effectivement, en particulier sur Quimper et Lorient, et un petit peu sur Brest, des baisses de trafic.
Vos arguments, vous, Air France, Hélène Abraham, face à un TGV qui met 2 heures désormais entre Paris et Bordeaux. Est-ce que vous avez décidé de baisser les prix, justement ?
Alors, mes arguments, c'est que Bordeaux-Paris, c'est 55 minutes de temps de vol. 55 minutes. Donc, c'est pas 2h04 de départ à une arrivée.
On va vous dire, faut aller à l'aéroport et il faut surtout aller de Mérignac à Bordeaux-Centre-Ville, ce qui est pas forcément aisé.
Alors, il y a des travaux actuellement sur la jonction qui mène effectivement à l'aéroport. Mais globalement, tout le monde n'habite pas non plus en centre-ville. L'écosystème autour de l'aéroport de Bordeaux est très actif. Vous avez des sociétés qui, elles, vont jusqu'à l'aéroport en 5 minutes. Donc, je pense que des arguments, nous en avons. Nous avons à la fois des produits qui sont réservés à nos clients, en particulier sur la navette, qui leur permettent de précommander leur nourriture à bord. Donc, s'ils n'ont pas le temps d'avoir prévu le déjeuner ou le dîner.
Ah, ça, c'est nouveau, ça.
Ça, c'est nouveau. Ça s'appelle EOP à table.
EOP à table, bon, voilà. Très bien.
Voilà. Et c'est fait avec la société Bocaux, les frères Ferniaux, qui nous ont fait des recettes particulières. Et pour 8 ou 15 euros.
C'est-à-dire, on réserve à l'avance, c'est
24
ça
24 heures à l'avance, 20... jusqu'à 24 heures à l'avance. Vous pouvez réserver maintenant pour
Et on est servi à table.
Et on est servi par le personnel de bord, à bord de l'avion. Qui vous apporte votre repas pendant le vol.
Bon, très bien. Audrey Détry, donc responsable France et Benelux Trendline, vous vendez donc les billets de la SNCF. Hein. La SNCF, elle affirme vouloir capter à terme 3/4 des passagers aériens de la ligne Paris-Bordeaux. C'est faisable, c'est jouable ?
C'est faisable, ben, je leur souhaite en tout cas et je nous le souhaite puisqu'on est partenaire de la SNCF et on distribue leurs billets. Honnêtement, je peux pas vous dire de prévision, mais ce qui est sûr, c'est que 2h04, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est une petite révolution dans le monde du train parce qu'on est vraiment proche de Bordeaux et on voit que le trafic augmente énormément. C'était déjà une de nos top destinations Paris-Bordeaux, donc ça va continuer à augmenter.
Oui, Philippe Mangeard, c'est possible ou pas? Parce que là,
c'est forcément possible, mais comme l'a
ça
dit madame,
ça fait bondir Air France.
Pour parler un peu marchandise, ça dépend du pré-acheminement et du post-acheminement.
Ah, voilà.
Hein, si vous êtes dans le centre-ville de Bordeaux, vous irez en train. Si vous êtes dans la zone industrielle, la zone technologique de Mérignac, vous irez en avion. Quoi, je veux dire, chacun trouvera son. Il y a la place pour tout le monde. La pertinence de chaque mode de transport s'exprime de mieux en mieux, on va dire. Et puis le hub de Roissy est un atout considérable pour Air France, pour l'ensemble des gens qui, de Strasbourg ou de Marseille ou de Bordeaux, vont prendre l'avion pour rejoindre une destination internationale.
Ou pour rejoindre l'Allemagne, puisque vous avez ouvert Düsseldorf depuis Bordeaux.
Tout à fait. Nous ouvrons Nantes-Hambourg bientôt. Enfin, il y a un certain nombre de dessertes européennes. Maintenant, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il faut comparer. Contrairement à ce qu'on peut penser, le tarif de l'avion n'est pas plus cher que le tarif du train. Je crois que voilà, c'est une opportunité aussi de comparer à un moment donné. Si on réserve à l'avance, 30, 40 jours à l'avance, souvent, on trouve des petits prix sur l'avion qui sont moins chers que le train. Donc, je crois qu'il faut effectivement avoir ce réflexe qui n'est pas immédiat de se dire que l'avion est un mode de transport compétitif. Hop Air France, c'est toute l'année à moins de 100 euros l'aller-retour, c'est possible.
Oui, mais pour la clientèle d'affaires, pardon, autant on peut anticiper ses vacances quand on est monsieur, madame, tout le monde, en effet, en se disant, tiens, à la fin du mois de décembre, pour les fêtes, j'irai chez mon tonton et ma tata, là-bas, Arcachon ou je ne sais où, très bien. Et pour la clientèle d'affaires, évidemment, le match, il est peut-être plus difficile quand
même.
Alors,
pour la clientèle d'affaires, on a un certain nombre d'efforts qui ont été faits sur le plan tarifaire. Vous m'interrogiez tout à l'heure sur l'adaptation de nos tarifs. Oui, on a fait un certain nombre de pas vers cette clientèle d'affaires en nous rapprochant de ce que propose la SNCF. Après, on est dans un mode de compétition un petit peu particulier. Nous sommes une entreprise privée, cotée en bourse, en face d'un acteur public très subventionné. Je rappelle que Paris-Bordeaux...
Vous êtes en train de dire que la concurrence avec la SNCF ne se fait pas armes égales. C'est ce que vous dites,
quand on construit une infrastructure qui coûte à l'usager 7,8 milliards, ce qui économiquement représente une subvention de 20 euros par client transporté pendant les 25 prochaines années sur le train, je pense qu'on est effectivement dans un environnement différent.
Philippe Mangeard.
Ah ben c'est sûr que On va croire que je suis anti-ferroviaire alors que je viens du ferroviaire et pro-avion, mais il est vrai que les infrastructures ferroviaires sont pas payées au juste prix par l'opérateur, mais on est dans ce cadre-là aussi dans une application de service public. Aujourd'hui, il est quand même plus normal de tirer des infrastructures pour transporter les gens à moindre coût, à moindre délai, à moins d'énergie. Donc il n'y a pas de débat, quoi. Le débat des infrastructures françaises, il est là, il est posé. Moi, je pense que je prends souvent Air France, même très souvent Air France. Il y a véritablement une performance accrue de cette compagnie depuis plusieurs années grâce au TGV. Et ça va continuer, et il y a de la place pour les deux. Mais il ne faut pas critiquer l'un par rapport à l'autre, les deux ont leur pertinence d'expression.
Audrey Détry.
Je suis assez d'accord, je pense que les deux moyens de transport sont assez différents, et on a des usages différents de centre-ville à centre-ville pour le train, avec une expérience relativement différente. On parle beaucoup de la compétition entre l'avion et le train. Il faut rappeler juste qu'on est à 83% de part modale de la voiture en France. Donc, quelque part, le débat est peut-être un peu ailleurs.
C'est vrai. Je crois, ouais, les trajets domestiques. Hein, la voiture, c'est quoi, 2/3 ou 70% des déplacements. Le train, quoi, 25%. Et l'avion, 10%. Une grosse partie chez Hop. Le reste, chez les low cost. C'est quoi vos forces, vos handicaps chez Hop Air France? Parce que là, on parle de la concurrence avec le train, on y reviendra, puis la concurrence aussi avec les autobus. Mais par rapport aux compagnies low cost, on voit la concurrence qui s'accélère. EasyJet à Orly, Ryanair, ce qu'il en reste à Charles de Gaulle. C'est quoi vos atouts par rapport aux low cost, votre positionnement?
Alors, je crois qu'il faut rappeler que Hop Air France aujourd'hui, eh bien, c'est un produit assez unique. Sur la navette de Toulouse, c'est 25 vols par jour sur Orly, c'est-à-dire un vol toutes les 20 minutes à peu près aux heures de pointe, tous les quarts d'heure. C'est effectivement pour la clientèle des offres pour tout le monde, les jeunes, les moins jeunes. C'est du transport d'enfants non accompagnés. On est en vacances scolaires. Vous le rappeliez, les low cost ne proposent pas ce produit qui consiste à prendre en charge des enfants à partir de 4 ans et à les emmener chez les grands-parents, chez les oncles et tantes ou chez les parents. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, est un produit que seul notre groupe est capable d'offrir vis-à-vis des low cost qui ne proposent pas ce produit. C'est également la possibilité pour les hommes d'affaires qui voyagent avec une carte d'abonnement, eh bien, d'avoir accès à la dernière place, d'être à l'avant de l'avion, de pouvoir faire rembourser son billet, même après départ, pendant 365 jours, de passer d'un avion à un autre sur la navette dans le taxi qui l'emmène à l'aéroport. Il y a quand même beaucoup de facteurs.
Les avions de la navette partent depuis les mêmes portes d'embarquement, et votre pari lancé il y a un an, vous allez nous dire si c'est réussi quelque part, c'est qu'un client Sky Priority, donc un client prioritaire, donc en effet clientèle d'affaires, hein, voit son parcours entre l'arrivée à l'aéroport et la montée dans l'avion en
20 minutes.
Alors ça, c'est réalisé ou pas?
Ah oui, tout à fait. Je crois que nos clients Sky Priority et nos abonnés aujourd'hui ont droit à ce parcours aussi, même s'ils ne sont pas Flying Blue, des Gold ou Platinum. On voit qu'effectivement, ce travail qu'on a fait sur le produit de relance de la navette montre toute sa pertinence.
Philippe Mangeard.
Ah oui, je dois avouer humblement que j'utilise les deux. Et il est vrai qu'il n'y a pas de rapport entre la qualité de service qu'on a chez Air France et celle qu'on a par exemple chez EasyJet, mais c'est pas le même prix. Donc tout le monde, on revient au débat, hein. Ça dépend ce qu'on cherche. On cherche aujourd'hui un billet très très peu cher, on a très peu de services. On cherche un billet correctement.
Parce que les low cost aussi essayent de viser la clientèle.
Oui, mais
ça
arrive pas. Objectivement, c'est pas possible.
Pourquoi?
Parce que d'une part, il y a un mixte passager qui est pas satisfaisant pour l'homme d'affaires. Vous savez, on est toujours dans les réseaux, nous les hommes d'affaires. On aime bien être dans des avions où on reconnaît des gens avec qui on va peut-être relancer une affaire.
Vous avez peur que sur EasyJet,
ça fait partie
vous
du deal.
Reconnaître personne?
Non, sur EasyJet, vous connaissez personne.
Non, mais on voit ce réseau dans nos salons.
Ouais.
Nos clients apprécient particulièrement nos salons. On a rénové celui d'Orly, on a rénové celui de Bordeaux. Ils se retrouvent au salon pour faire.
Les salons, c'est un atout essentiel.
Oui.
C'est un atout essentiel. C'est ce place to be. On voit plein de gens. Économique, politique. Non, il y a un avantage colossal. Mais tant mieux pour EasyJet qui fait des prix pour les gens qui ont besoin de voyager pas cher. Mais heureusement qu'Air France qui fait des prix compétitifs pour des gens qui ont besoin de ça, quoi.
Les low cost, hein, qui continuent quand même, alors au-delà de la clientèle affaires, qui continuent justement, eh bien, la conquête du ciel français. C'est la DGAC qui révélait donc ces chiffres pour 2016. La part des marchés, de part de marché qui progresse encore de 2 points à 32%. Et sur la France, 22% avec en tête de gondole EasyJet, plus de 40%. Ryanair à la baisse avec 18%. Et puis Transavia, donc autre filiale d'Air France, 11% part de marché assez modeste. Philippe Mangeard.
Je continue mon plaidoyer pro Air France dans ce cas-là. C'est vrai qu'une demi-heure, vous arrivez à Orly, vous êtes dans l'avion. EasyJet, vous arrivez une heure et demie avant. Sinon, vous êtes à la rue, quoi. Alors, c'est ça. Hein.
Alors, il y a la concurrence. Donc, on y reviendra d'ailleurs sur Hop Air France. Hein, parce que, bon, tout n'est pas non plus. Voilà, il y a peut-être un revers de la médaille. On y reviendra tout à l'heure avec vous dans un instant, Hélène Abraham. Oui, concurrence donc sur dans le ciel avec Hop Air France, avec les low cost. On a vu le TGV. Ah, le TGV justement. Et ça, c'est la nouveauté. Là, on voit que la concurrence s'exacerbe. L'arrivée de Ouigo. Alors, Ouigo, c'est le train low cost, le TGV low cost donc de la SNCF qui avant partait de gares périphériques, hein, Marne-la-Vallée, Massy, Charles de Gaulle, et qui le 10 décembre va partir de Montparnasse. Alors qu'est-ce qui justifie justement eh bien ce départ de Montparnasse? Audrey Détry, Trendline.
Alors, je veux pas parler pour la SNCF,
Alors, vous avez raison. Alors, on a appelé la SNCF. On voulait qu'ils y soient là ce soir, mais comme il fallait leur fournir les questions à l'avance, bah, tout d'un coup, il n'y avait plus personne. Alors, allez-y. J'ai fermé ma parenthèse.
Voilà. Ça, c'est drôle.
Non, oui, c'est drôle. Enfin, l'ancien temps. Pardon. Allez-y,
Audrey. Je pense que la stratégie de la SNCF est vraiment de développer deux gammes. Une gamme vraiment low cost, Ouigo, qui doit être la plus exhaustive possible. Et pour ça, je pense que ça fait du sens que ça parte aussi de Montparnasse. Et leur nouveau label Inouï, dont on a beaucoup entendu parler, qui est un service enrichi et qui va vraiment proposer une offre de service supérieure. Donc vraiment, d'un côté, le low-cost Ouigo et de l'autre, Inouï, qui va progresser et apporter un service encore meilleur aux usagers. Et
alors, Ouigo, il n'y a pas de voiture bar, il y a une seule classe. Exactement. Les espaces bagages sont repensés justement pour faire en sorte qu'il y ait plus de voyageurs. Hein. Il y a deux fois plus de voyageurs, il y a 1000 passagers par rame que sur un TGV normal où il y en a à peu près 500. Voilà. Donc là, ils vont continuer donc à se différencier. Ils vont même peut-être accentuer cette différenciation ou pas?
Je pense qu'on est vraiment sur des usages, encore une fois, très différents et qu'ils vont vouloir répondre à la fois à des offres très low cost et pouvoir avoir des très petits prix et puis une offre plus à destination d'un public business avec des nouvelles classes business première, des choses comme ça, où on va vraiment avoir un écart dans les consommations.
C'est vrai que même si l'offre de Ouigo va être amenée à s'accroître, hein, ils vont tripler d'ailleurs le nombre de Ouigo, mais pour l'instant, il n'y aura toujours qu'une, deux liaisons quotidiennes sur Nantes, sur Bordeaux, sur Rennes. Il restera des TGV. Ça ne va pas cannibaliser donc les TGV, les Inouïs, pardon. Voilà.
Les TGV Inouïs. Non, je pense qu'ils sont vraiment dans une logique de complémentarité pour répondre à des usages différents.
Philippe Mangeur, Técalou.
Técalou, moi je ne suis pas Técalou. Je dis que bon, la SNCF intelligemment copie le service à France. S'occuper des hommes d'affaires, les accueillir, les
donc ça c'est
les
TGV
nourrir,
normal,
voilà, TGV alors. Normal et puis vive Inouï,
Ouigo.
Ouigo, parce que je trouve que plus il y aura de gens dans le train, mieux ça sera sur nos routes. Et puis je voudrais bien qu'on parle un peu des bus.
Bon, on va parler des bus.
Hein, parce que les bus, quand même, moi je trouve ça très très bien. Mes enfants l'ont pratiqué, tout le monde en pratique. Je trouve ça très bien aussi. C'est une offre qui va densifier parce que, comme l'a dit Madame tout à l'heure, l'ennemi c'est quand même ces voitures qui sont partout. Il faudrait y avoir plus de bus, plus de TER, plus d'avions, plus de transports collectifs en fait.
Le développement de l'offre doit justement contribuer à augmenter eh bien, le nombre de passagers voyageant sur TGV. Hein, la SNCF qui attend presque 4 millions de passagers en 2018 au départ de Montparnasse. Elle veut attirer 15 millions de nouveaux voyageurs dans ces TGV d'ici 2020. Avec notamment, bah oui, il y aura des services différents puisque les Ouigo qui partiront de Montparnasse vont s'arrêter à Poitiers, Saint-Pierre-des-Corps, Laval. Par exemple, voilà, ça ne sera pas du TGV super direct, super cher, toujours cher. Hein.
On ne sera pas sur du 2h04, sur du Ouigo, oui.
Ça veut dire quoi? Tiens, justement, la SNCF se sentait cernée, sale temps pour la SNCF, cernée donc par les compagnies low cost, par Hop Air France, par le covoiturage, n'oublions pas Blablacar, les autocars également, Yvan Lefranc-Morin à la tête de Flixbus.
Alors effectivement, la SNCF, dans sa stratégie de toute façon aujourd'hui d'être un petit peu présent sur tous les pans de la mobilité, a cherché probablement à des relais de croissance parce qu'elle s'est bien rendue compte que si elle restait sur son TGV de base, ça allait être très compliqué. Ensuite, moi je suis un peu plus réservé sur la stratégie, notamment sur les problèmes de cannibalisation qu'il va y avoir entre Ouigo et le TGV classique parce que on a beau dire que c'est pour des cibles différentes. Malgré tout, si vous avez des prix qui sont divisés par deux ou trois, vous avez beaucoup de gens qui vont passer du TGV normal vers du TGV low cost. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette stratégie de cannibalisation, elle a aussi des limites. Notre principal concurrent sur les bus Macron en France est une filiale de la SNCF. Oui. Donc, comment est-ce qu'ils se positionnent? Ça s'appelle, c'est Ouibus. Comment est-ce qu'ils vont se positionner par rapport à Ouigo, par rapport à toutes les offres, de la SNCF? Il y a aussi un petit risque, de complexité de l'offre qui va devenir, probablement peut-être un peu trop dense pour justement rester simple.
Ouais, on va reparler de Flixbus dans un instant. Yvan Lefranc-Morin, c'est vrai, Philippe Mangeard, on voit la palette qui s'élargit. Il a raison. Il nous a cité Ouibus. Il y a Ouicar également dans le covoiturage. Il y a Ouigo également, quelque part. La SNCF cernée, la SNCF se fait peur par tout ce qui se passe autour d'elle?
Bah, la SNCF, elle est critiquée par tous les côtés parce qu'elle est historique, parce qu'elle est partout, parce qu'elle a tous les défauts du monde, mais elle est là. Donc, comme elle est là et qu'elle a, ma foi, un président et un staff assez dynamique, elle cherche des solutions en essayant au mieux de copier qui Air France, qui Flixbus, qui on peut, quoi. Et elle se débrouille bien. Votre sujet m'apparaît un peu incomplet parce qu'il y a aussi l'affaire de la capillarisation. Il n'y a pas que des hommes d'affaires qui circulent. Il y a des gens qui sont des retraités, il y a des gens qui sont des touristes, il y a des gens qui sont des étudiants. La capillarité est importante. Le fait de prendre les gens à domicile comme Blablacar, le fait de les prendre un tout petit peu plus loin comme Flixbus, encore un tout petit peu plus loin à la gare et le plus loin à l'aéroport en statistique, change aussi la donne. Des prêts et post-acheminement, c'est extrêmement important. Donc Blablacar, aujourd'hui, moi, j'ai toujours pas compris le modèle économique, je suis pas sûr qu'il fonctionne. Je sais que les compagnies de car ont beaucoup de difficultés à boucler les fins de mois, mais elles arriveront sur la masse. Je sais que la SNCF n'est jamais arrivée à équilibrer ses comptes, donc ça m'étonnerait que sur cette partie-là, elle y arrive. Mais bon, service public, et je partage ce que disait Madame Abraham tout à l'heure d'Air France. C'est vrai que vous ne pouvez pas comparer des modes de transport quand ils n'ont pas les mêmes actionnaires ou pas les mêmes objectifs de rentabilité. Il faut applaudir Captain Train,
Trainline, depuis le rachat par des Britanniques,
qui a inventé un nouveau modèle de réservation qui est extrêmement intéressant parce qu'on n'est pas simplement sur le guichet SNCF, on est sur le guichet Trenitalia, les Deutsche Bahn, SNCF, bientôt les bus, etc. Donc tout ça, ça change, mais si on veut bien parler de transport de voyageurs, faut parler du voyageur. Le voyageur, c'est quelqu'un qui n'aime pas attendre, c'est pas comme de la marchandise, c'est quelqu'un qui a besoin de confort, qui a besoin de sécurité, qui a besoin de flexibilité. Et ben, plus il y aura d'offres, mieux c'est.
Et plus de services, voilà.
Et plus de services.
Comment réinventer le service? On parle en permanence sur BFM Business du service à apporter dans les magasins, face justement au e-commerce. Quel service apporter dans les transports? Alors, tout à l'heure, Hélène Abraham nous disait, bon, ben voilà, on va faire des repas à la place, si on réserve suffisamment à l'avance.
Il y a les bagages à la maison. Ouais. J'ai vu ça l'autre jour, terrible. SNCF va vous chercher les bagages à la maison. C'est tout bête. Il y a aujourd'hui les pré- et post-acheminements de certains en voiture, en cab, en tout ce que vous voulez imaginer, en VTC, comme on dit. Il y a les correspondances garanties, assurées. Il y a 1 million de choses qui vont vous faire choisir au-delà de l'argent. Évidemment, il y a 80% des gens, et c'est bien normal, qui voyagent uniquement pour des raisons budgétaires, donc ils vont calculer le prix. Mais il y a 20% qui sont capables d'en mettre un peu plus pour flexibilité, sécurité, confort, nourriture, boisson. Regardez un peu le drame de ces low cost où il n'y a rien, quoi. Un bagage de plus, vous payez, une boisson, vous payez, vous êtes en retard, vous payez. Faites là que vous payez partout, quoi, finalement. Donc il vaut mieux payer une bonne fois et être tranquille.
Alors, qui prend Hélène Abraham, Air France, Audrey Détry, juste après.
Je voudrais juste ajouter le fait que pour les hommes d'affaires, il n'y a que l'avion qui permet de faire l'aller-retour journée. On parle beaucoup de Bordeaux Paris en 2h04, très bien, mais n'oublions pas qu'il n'y a pas de Bordeaux. Je pense qu'il faut rappeler que nous offrons l'aller-retour journée sur la plupart de nos dessertes, avec un effet fréquence qui va de 3 à 25 vols par jour. Qu'on soit à Brive-la-Gaillarde, on peut faire l'aller-retour journée de Brive à Paris. Qu'on soit à Brest, c'est possible aussi, ou pour aller à Lyon, c'est possible aussi. On peut faire l'aller-retour dans la journée. Il n'y a que l'avion qui permet ça.
Ah, je voulais prendre la parole. Yvan Lefranc-Morin, Flixbus.
Moi, je suis un tout petit peu réservé à ce que vous dites, parce qu'effectivement, on parle des hommes d'affaires, donc c'est très bien quand vous faites payer votre billet par votre boîte, quand il n'y a pas de problème de voyager en première. Nous, chez Flixbus, on se rend compte, par exemple, qu'on a un nouveau type de client qui arrive dans les bus. Ce sont des entrepreneurs, des gens qui sont des indépendants, qui voyagent sur des lignes, alors évidemment pas sur des lignes Paris-Marseille, mais sur des lignes beaucoup plus courtes, sur du Paris-Rouen, du Paris-Le Havre. On en a de plus en plus. Et effectivement, pour ces gens-là, ça a un vrai intérêt de pouvoir venir dans les bus, parce que c'est beaucoup moins cher, évidemment. On est 2,5 à 3 fois moins cher que le train pour les mêmes trajets, en moyenne. On a du wifi, on a du confort. Aujourd'hui, un car, c'est plus que c'était il y a 10, 20 ans. Et du coup, encore une fois, faut voir à quel type de client est-ce qu'on s'adresse.
C'est une nouvelle clientèle que vous visez, vous?
C'est une nouvelle clientèle qui n'est pas une clientèle prioritaire. En fait, on les a vus arriver plus qu'on les a fait venir, mais on est obligé d'en tenir compte aujourd'hui. Et effectivement, il y a de plus en plus de gens qui font quand même attention à leur fin de mois, que ce soit dans un cadre professionnel ou évidemment personnel. Juste. Et ces gens-là, il ne faut pas les oublier. Et ça représente une très très grande majorité des gens qui travaillent en France en réalité.
Alors Philippe Bourgeois et Audrey Détrich. Hein.
Moi, je trouve ce truc très intéressant que les entrepreneurs montent dans un bus pour aller de Paris au Havre. Me paraît mieux que de monter dans un train où on ne sait pas où on va, il faut changer ou c'est très compliqué. Un bus, il y a un conducteur qui vous emmène, il y a des gens qui en discutent, finalement c'est pas idiot. Le wifi, c'est le bureau volant.
Pour aller au Havre, on est plus rapide que les trains.
Ouais, donc c'est le bureau. Non, je prenais exprès le Havre parce que j'ai quelques difficultés à me rendre au Havre. Hein. Donc c'est très confortable, c'est un bureau sur route, quoi. C'est très très
exactement.
Bien.
Audrey Détrich.
Oui, non, je voulais juste souligner, on a parlé du client et donc je pense que le rôle de la distribution dans tout ça est majeur puisqu'on va pouvoir justement comparer les offres. Les différentes offres, les différents tarifs, les différentes durées de trajet, etc. Alors nous, on n'est pas dans l'avion, on est sur le terrestre. Mais voilà, je pense que le rôle du distributeur est également important dans cette réflexion-là.
Tiens, justement, restez avec nous. On se retrouve dans un instant. On parlera aussi de la concurrence, parce que si en effet, la SNCF, mais c'est Ouigo. À Montparnasse, donc, d'ici 3 semaines, 4 semaines, maintenant, début décembre, c'est peut-être aussi parce que la concurrence se prépare, s'exacerbe, oui, parce que tout ça s'ouvre, à l'échéance 2021 sur les lignes à grande vitesse, on verra aussi comment elle se prépare, cette concurrence. Restez avec nous, donc, à qui va profiter la révolution du transport entre le train, l'avion, le covoiturage, l'autobus. À tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, à qui va profiter la révolution du transport? C'est vrai que la concurrence, elle s'exacerbe, elle est de plus en plus vive entre le train, oui, et puis à l'intérieur du train, vous avez les TGV et puis les TGV low cost, l'aérien, bien sûr, les grandes compagnies comme Air France ou Hop Air France et puis les low cost, le covoiturage, les autocars également, voilà, on est en pleine période de vacances de la Toussaint. Oui, dans l'actualité, c'est la SNCF qui va faire partir ses TGV low cost, c'est Ouigo de Montparnasse et non plus des gares périphériques. La SNCF, tiens, Yvan Lefranc-Morin, la tête de Flixbus, est-ce qu'elle était allée trop loin sur le terrain des prix du TGV? Il fallait montrer que finalement le TGV, c'est pas juste un produit de luxe qu'on achète Avenue Montaigne ou Rue de la Paix.
C'est clair que le prix du TGV était devenu complètement délirant. Honnêtement, je sais pas combien est-ce qu'il faut gagner par mois pour se payer un billet de train à 250-300 € aller-retour.
C'est dingue. Ouais,
Mais c'est devenu un produit de luxe. Effectivement, la stratégie de tendre vers du low cost est plutôt bien sur le papier. Est-ce que derrière, effectivement, le business model va être pérenne aussi? Parce qu'il y a une question qui se pose sur les infrastructures. On parlait du départ des Ouigo depuis les gares parisiennes. Combien ça va coûter à produire? Et voilà, la SNCF nous a pas forcément habitués à défendre un business model qui fonctionne depuis 30, 40, 50 ans en France. Donc, si c'est pour le faire au détriment du contribuable, je pense que la question peut se poser, effectivement.
C'est quoi le Philippe Mongeard? Vous êtes à la tête de l'agence de notation TK Blue spécialisée dans le transport. Vous êtes un grand spécialiste de la mobilité. C'est quoi le modèle Ouigo, justement? Est-ce que c'est calqué vraiment sur le modèle du low cost aérien?
On a 4 modèles différents.
Ouais.
Vous prenez le plus simple, la voiture ou le bus.
Ouais.
Le budget le plus important, c'est le conducteur. Ensuite, c'est l'énergie. Et ensuite, c'est le matériel. Il n'y a pas de problème pour d'accès à l'infrastructure. N'oublions pas cette notion. Il n'y a pas de problème pour l'infrastructure, pour les cars et pour les bus. À l'autre bout, vous avez le train.
Il faut quand même payer le péage.
Ah, c'est quand même.
Qui représente
23% du
réseau.
Une partie assez importante.
Il a raison, Yvan Lefranc-Morin, parce que les trains, les Ouigo qui partiront de Montparnasse, les tarifs seront plus élevés que s'ils partaient de Marne-la-Vallée, de Charles de Gaulle ou de Massy-Palaiso. Ouais. Hein. Voilà, c'est important.
Vous avez le petit bout léger, vous avez le bout lourd, le ferroviaire. Ouais. Le ferroviaire, c'est un gros paquet d'infrastructures, un gros paquet de matériel, un gros paquet d'énergie et un tout petit bout le conducteur. Donc, on ne parle pas des mêmes chiffres. Vous avez l'avion. Oublions les infrastructures. Aujourd'hui, les aéroports sont largement autofinancés par le commerce, les péages, etc., etc. Donc, il reste le matériel, l'énergie et le conducteur. Donc, vous ne pouvez pas rapprocher des modèles économiques qui n'ont pas le même coût de construction.
Mais alors, à l'intérieur de la SNCF, entre le TGV normal et le Ouigo, c'est quoi? Parce que je crois qu'ils veulent faire rouler le matériel le plus longtemps possible, hein, le double d'un TGV normal, 13 heures versus 6 heures ou 7 heures pour un TGV normal.
Reste l'énergie et l'infrastructure à l'identique. Ouais. Donc l'amortissement du matériel, aujourd'hui, un matériel ferroviaire, ça s'amortit sur 20 ans, sur 10 ans, ça dépend comment vous comptez. Je ne pense pas que ça incite de plus de 10% dans le prix de revient d'un train, le matériel. Vous voyez, c'est bien tout ça, mais il faut bien considérer que l'essentiel, c'est l'infrastructure et l'énergie. Le conducteur, il compte peanuts. Peut-être qu'aujourd'hui, les conducteurs travaillent plus que dans le temps, c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui va changer le modèle. Donc, c'est un problème politique d'infrastructure d'avoir mis du ferroviaire, tant mieux, je suis pour la réactivation d'un réseau ferroviaire encore plus capillaire, parce que, in fine, il s'avère que, d'un point de vue éco-environnemental, c'est quand même nettement le meilleur système. Mais par contre, je suis contre les TER, je préférais voir des bus, des cars. Pourquoi? Parce qu'un TER, c'est un petit train régional. Quand vous voyez passer ça en Alsace, en Provence, pas n'importe où, avec 300 places ouvertes et il y a 15 Pékins dedans, ça, c'est monstrueusement cher. Ça coûte cher en infra, ça coûte cher en matériel, ça coûte cher en énergie, ça coûte même cher en conducteur. Aujourd'hui, je préfère avoir une voiture avec 4 personnes, un bus avec 25 personnes, qu'un TER avec 25 personnes. Hein. Ça n'a pas de sens.
L'offre Ouigo, est-ce qu'elle est rentable? Est-ce qu'un Ouigo qui va rouler deux fois plus qu'un TGV normal, dont la réparation, la maintenance se fait de nuit, qui n'est vendu que sur Internet, justement, est-ce que le Ouigo peut venir au secours du TGV comme Transavia, quelque part, ou June, chez Air France, sont venus au secours de la compagnie, la maison mère?
Il n'y a pas de comptabilité analytique à la SNCF, donc vous n'aurez jamais la réponse.
On ne saura pas. Bon, d'accord, facile.
Par contre, vous avez le bon sens, le bon sens paysan que je partage avec beaucoup d'amis. S'il y a plus de trains par jour sur une infrastructure, elle sera mieux amortie. Donc on va dire que, soyons positifs, ça va diminuer le déficit. Mais en aucun cas, ça rendra les choses rentables.
Est-ce que les TGV sont amenés à desservir toutes les villes? C'est le grand débat, justement, depuis qu'une mission a été confiée à l'ancien patron d'Air France, M. Spinetta. C'est la Cour des comptes qui avait pointé le problème il y a 3 ans. Le TGV ne dessert pas moins de 230 gares et circule 40% du temps en moyenne sur le réseau classique. Je cite la Cour des comptes, le TGV joue un rôle de TER de luxe. Est-ce que la SNCF va réduire dans les années à venir le nombre de gares desservies par les TGV?
Dans TGV, il y a grande vitesse.
Oui.
Voilà. Donc, vous arrêtez tout le temps, la grande vitesse, bonjour. Ouais. Ensuite, vous parlez tout à l'heure de l'énorme chapitre énergie dans un train. Un train qui s'arrête, c'est un train qui freine et c'est un train qui accélère. Donc les deux, puis la réalité, c'est que arrêter un train pour 3 personnes, on revient à l'exemple du TER. Quoi.
C'est pour ça, Audrey Détry, le Ouigo va s'arrêter dans des villes comme Poitiers, Saint-Pierre-des-Corps ou d'autres. Et on aura le TGV qui, lui, roulera à fond les manettes, justement, en laissant quelque part un certain nombre de dessertes. C'est ça un peu l'avenir? C'est ça l'issue?
Je ne sais pas si c'est l'issue, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le TGV va permettre d'aller plus rapidement à des points de grandes destinations business ou touristiques et va permettre d'aller plus rapidement. Moi, je pense que ce qui est intéressant vraiment, c'est cette histoire de taux de remplissage. Aujourd'hui, si les trains ne sont pas remplis, c'est notre mission à nous, Trainline, entre autres, de faire en sorte que les gens puissent connaître mieux les horaires, les tarifs de train et réserver leur train et donc connaître, faire la promotion de ce mode de transport.
Est-ce qu'avec un système comme Ouigo, Philippe Mangeard, l'objectif pour la SNCF, c'est de gagner des parts de marché quelque part, en améliorant ses marges quelque part, et donc ensuite d'investir? Parce que pour l'instant, ils sont un petit peu étranglés, ils sont un petit peu coincés.
Là, vous marquez un point. Ouais. Effectivement, si les trains circulent plus, c'est plus facile de les amortir, donc on peut investir, donc on peut faire un petit peu de
le TGV est dans une impasse économique en ce moment.
Je dirais pas ça, je suis pas spécialiste et beaucoup de spécialistes sont pas d'accord entre eux. Donc je pense que la seule ligne TGV rentable aujourd'hui, c'est Paris-Lyon et toutes les autres seront déficitaires à vie. Donc, grosso modo. Et Paris-Lyon, c'est un train toutes les minutes, toutes les 5 minutes, quoi. C'est quelque chose d'assez monstrueux. Mais on n'est pas obligé de trouver de la rentabilité dans la sécurité sociale, dans le réseau électrique, dans les réseaux de télécom, dans les réseaux ferroviaires. Il est par contre légitime que ceux qui sont en compétition demandent aussi à bénéficier de certaines équités en termes de distribution budgétaire, de tarifs,
comme
de
taxes sociales, etc. Comme le disait tout à l'heure Abraham,
bien sûr. Donc, le modèle SNCF est un modèle qui bouge à toute vitesse. Il faut dire que depuis, en 10 ans, il s'est passé énormément de choses. Au niveau des voyageurs, ils vont piquer les idées de notre ami qui fait du bus, ils vont piquer les amis de nos amis de Blablacar, ils piquent les idées d'Air France, ils piquent les idées à tout le monde, ils ont les moyens, ils ont l'eau de bilan, ils ont la puissance, donc et vive la compète, quoi, mais à armes égales bientôt.
Yvan, le franc-morin.
Je réagis sur ce que vous dites. Effectivement, il y a un vrai souci, il y a une vraie question qui se pose, c'est l'ouverture à la concurrence qui arrive dans
2021. pour les lignes à grande. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là?
Il va falloir d'une part qu'effectivement il y ait des conditions d'équité qui soient assurées à tous les opérateurs privés qui vont vouloir arriver sur ce marché. C'est jamais simple d'arriver sur un marché qui s'ouvre. Quand vous avez un opérateur public historique qui est là depuis 50 ans et qui, en gros, 50 ans ou plus, qui s'est arrangé en tout cas avec la comptabilité publique comme il voulait, avec tout un tas de choses, dont personne ne s'est préoccupé jusqu'à maintenant. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on va préparer cette réforme qui, en fait, est demain, donc il est presque trop tard si on s'en rend compte maintenant. Et comment est-ce qu'on va pouvoir assurer l'équité entre tous les opérateurs privé, public. Moi, je le vis tous les jours en tant qu'autocariste, en tout cas qu'autocariste, parce que j'ai un concurrent qui est une filiale de la SNCF et, qui ne joue pas nécessairement avec les mêmes règles du jeu que tout le monde.
Ouais, 2021, vous, Audrey Détry, qui sur Trendline vendez à la fois des billets de train sur Internet pour la SNCF, mais pas que, parce que vendez Trenitalia. Les trains allemands, la Deutsche Bahn et également
complètement.
Les trains britanniques, puisque maintenant vous êtes, vous êtes britannique. Qu'est-ce qui va se passer en 2021? Cette concurrence, elle commence à se préparer ou pas?
Bien sûr, elle commence à se préparer. Ce sera même un petit peu avant. Ce sera progressivement dès 2019 sur le transport de passagers en régional.
En régional et ensuite en longue vitesse, en grande vitesse, 2021. Oui.
Exactement.
Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont proposer?
Concrètement, moi je rejoins complètement Yvan, ce qui est très important c'est qu'on puisse avoir un cadre clair, un cadre légal clair et équitable pour tous. Au niveau de la distribution en ligne, ça veut dire concrètement qu'il faudra que chacun puisse distribuer à la fois au niveau commercial, au niveau technique, puisse avoir les moyens de distribuer intégralement l'offre qui sera pourvue. En termes de commission, donc notre business model est quand même fondé sur la commission qui est donnée par le transporteur, donc il faut qu'il y ait une commission qui soit viable pour que les transporteurs puissent proposer de la distribution en ligne.
Il y aura du service en plus hein.
Potentiellement, ce qu'on voit en fait souvent en termes de concurrence, c'est que on a un marché qui est plus dynamique. On va apporter une meilleure qualité de service pour le client, des prix parfois qui vont être un peu à la baisse. Donc, à la fin, ce qui est important, c'est que ça bénéficie au client.
Hélène Abraham, la DG de Hop Air France.
Oui, vous parliez de qualité de service. Moi, je voudrais rebondir sur le sujet parce que une des choses qui fait la différence entre Hop Air France et le reste de l'activité et même le train, et on l'a vu cet été, c'est la capacité qu'on a de prévenir nos clients en cas de problème. Si la météo n'est pas bonne sur un aéroport et que malheureusement il y a trop de brouillard pour nous permettre d'atterrir, eh bien on va prévenir nos clients par SMS, par mail. On va les prendre en charge. Hop vient d'être récompensé pour la deuxième année consécutive par le label élu service client de l'année 2018, donc on en est très fiers. C'est aussi ce qui fait la différence avec d'autres acteurs.
Donc vous avez pu prévenir d'un certain nombre de retards ou d'annulations sur Hop Air France cet été, notamment parce qu'il y a un certain nombre de pilotes, ça fait partie de la règle, hein, au sein de la maison mère, qui ont décidé d'aller travailler sur Air France. Du coup, vous retrouvez avec moins de pilotes, quelque part, des pilotes aussi dont certains vont partir à la retraite. Quelque part, ça va continuer à ces annulations, ces retards ou pas? Vous manquez vraiment de pilotes ou pas chez Hop Air France?
Les choses sont pas liées, vous faites un amalgame. En fait,
il y a deux phénomènes différents.
Voilà, il y a une partie des pilotes qui effectivement ont réussi la
sélection. Mais au final, on a moins de pilotes.
Non, parce qu'on en recrute pour les remplacer. Après, il faut un certain temps entre le moment où on les recrute et le moment où effectivement, en toute sécurité, ils peuvent assurer les vols. Donc, il y a toute une formation qui est assurée. Il y a un certain nombre de mois de formation et de qualification. On a fait appel à des ressources également de compagnies tierces pour nous permettre d'assurer les vols. Je crois qu'il faut distinguer à la fois la disponibilité de ces pilotes, la disponibilité avion. On a un tout petit peu moins d'avions en vol parce qu'on forme de nouveaux pilotes pour remplacer ceux qui partent, mais on a fait appel à des moyens pour pouvoir assurer nos vols. La ponctualité, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure ensemble, c'est véritablement les travaux qui se passent à Orly qui nous pénalisent vraiment énormément et qui vont se poursuivre.
Ryanair qui a annulé, qui va annuler un certain nombre de vols. De quelle manière vous pouvez en profiter Hop Air France?
Alors, Ryanair est moins en concurrence sur nos lignes intérieures du marché
français. C'est plus EasyJet,
L'Europe. Et on voit d'ailleurs, en discutant avec un certain nombre d'aéroports, que la France a été peut-être un peu moins touchée que d'autres pays sur les annulations. Globalement, après, je ne me réjouis pas du malheur des autres parce que je pense que chacun peut faire face à des difficultés. La vraie différence, et je reviens sur ce que je disais, c'est le service après-vente. Je crois que lorsque vous avez un vol annulé pour X raisons, vous avez la prise en charge qui est assurée par nos personnels en escale ou au téléphone pour vous permettre de trouver le meilleur acheminement possible.
Alors les autocars, hein, on en parle encore un petit peu, hein, grâce à vous, Yvan Le Franc-Morin à la tête de Flixbus en France, il y a trois compagnies principalement qui sont... Il y a eu beaucoup de morts quand même, hein, après les autocars Macron, il en reste trois principalement, vous, Flixbus, Ouibus, vous l'avez cité, enfin sans la citer tout à l'heure, filiale de la SNCF, EasyLine, filiale de Transdev. On a 6 millions de voyageurs annuels, donc trafic en hausse. Hein, de...
Alors, ouais, ça sera d'ailleurs 10 millions de voyageurs en 2017, hein, donc le marché est en train d'exploser.
Plus 10% sur un an, même plus 20% d'un trimestre à l'autre.
Oui, c'est des progressions qui sont très fortes. Je rappelle qu'on est né en 2015, hein, donc le marché s'est ouvert en 2015, il y avait... personne, aucun voyageur avant ça en autocar ou de façon très anecdotique. Donc effectivement, les taux de croissance sont encore très importants.
Combien de voyageurs pour vous chez Flixbus?
Chez Flixbus, ça va être plus de 5 millions en 2017 en France et plus de 40 millions en Europe.
D'accord.
Puisque la France n'est qu'un tout petit marché pour nous en Europe. Flixbus étant une société européenne présente dans 26 pays européens.
Et vous ouvrez des lignes régulièrement?
On ouvre énormément de lignes, aussi bien des lignes estivales, des lignes saisonnières pour tenir compte de la forte demande. Pour les vacances de février, par exemple, on va ouvrir beaucoup de lignes vers les stations de sport d'hiver. Donc, on adapte beaucoup l'offre à la demande. Et effectivement, on va continuer à ouvrir beaucoup de nouvelles lignes en 2018 sur le réseau français.
Comment se fait la différence avec vos concurrents? Qu'est-ce que vous offrez en plus? Donc, bon, tous proposent des tarifs bas, mais c'est des prix d'appel, bien entendu. Il faut réserver longtemps à l'avance. Et puis, le contingent, il est limité. Le service aussi à bord,
hein. Oui, alors, on va dire que d'un point de vue service, il n'y a pas de différence majeure entre les trois opérateurs qui sont présents en France, pour être totalement honnête. Nous, là, on va se différencier, c'est par notre réseau, puisqu'on a un réseau qui est très dense. On dessert plus de 200 villes en France et plus de 1500 en Europe. Et on permet à tous les gens qui désirent voyager de pouvoir le faire dans des conditions satisfaisantes, aussi bien en termes de prix qu'en termes de confort et de sécurité.
On parlait tout à l'heure d'un cadre clair, réglementaire. Ce dont on s'est rendu compte, hein, et c'est l'ARAFER qui est un peu le gendarme du secteur, et France Stratégie également, c'est que l'équipement des gares routières reste insuffisant. C'est un peu la misère. Hein. Un quart des aires urbaines ne disposent pas de gares routières. Il y a 210 communes desservies par toutes ces compagnies. Peu de toilettes, peu de salles d'attente, peu de guichets, peu de wifi. Et on a même vu la ville de Paris, donc, qui est déjà très en pointe pour s'en prendre aux voitures, qui a supprimé la porte Maillot, la porte d'Orléans, pour tout recentrer sur la gare de Bercy-Seine. Bon, à qui la faute? Est-ce que c'est à vous de payer? Est-ce que c'est aux communes qui sont déjà étranglées budgétairement? C'est quoi?
Alors, concernant
la loi Macron, elle avait rien prévu, finalement.
Concernant les infrastructures, effectivement, les gares routières, on a tendance à dire que c'est la grande oubliée de la loi Macron en ce qui concerne les autocars. Tout le monde était très content d'ouvrir ce marché, mais personne n'avait pensé à la façon dont on accueille les passagers. C'est vrai qu'il y a un gros paradoxe, puisque aujourd'hui, on propose vraiment une gamme de services qui est vraiment très qualitative au sein de nos autocars, pour un prix défiant toute concurrence. Et lorsque le passager arrive ou doit descendre du car, il se retrouve souvent dans un no man's land.
C'est la pompe, paradoxal. Rien du tout.
Cependant, effectivement, il y a une prise de conscience qui est en train d'arriver en ce moment.
Vous êtes pas payé, vous, Flixbus?
Alors, nous, on va dire que c'est pas du tout notre métier. On n'est pas un constructeur d'infrastructures. On paye l'accès à ces infrastructures, parce que
il y a des redevances
à la mairie de Paris ou autre. On paye souvent très cher pour pouvoir accéder à des infrastructures existantes. Donc, on va pas à la fois construire l'autoroute et puis payer le péage. Donc, il y a un moment où effectivement, la question va devoir se poser. C'est probablement des concertations qui doivent être prises avec tous les acteurs sur le sujet pour pouvoir trouver la meilleure façon de financer ces infrastructures.
On va se quitter, Philippe Mangeur, pour terminer. Donc, je peux poser la question: à qui va profiter la révolution du transport? Qui va gagner la bataille de France? Allez, en quelques mots, rapidement, puis on se dit au revoir.
Va gagner la bataille de France. Je dirais, il va y avoir plusieurs catégories. On peut pas dire qu'un tel, à mon avis, pour le business, c'est l'avion.
Ouais.
C'est le TGV un peu cher. Pour le reste, c'est...
Voir le bus, que vous avez entendu tout à l'heure.
Et pour le reste,
qui commence à se positionner sur une certaine clientèle.
Oui, sur un Paris-Le Havre, sur un Paris-Caen, etc.
Oui, bien sûr.
Pour le reste, je pense qu'il y a un grand avenir pour les bus. Parce que moi, je crois que le scandale des TER vides va un jour s'arrêter. Et on va avoir des multiplications de bus. Les collectivités, les régions vont s'apercevoir que c'est débile d'avoir un TER tous les 20 minutes avec trois personnes dedans. Vive les bus. Je pense au modèle Blablacar, mais il a du mal à décoller. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un Ouibus ou un Flexibus? C'est un gros Blablacar. Et puis, je crois beaucoup à l'ouverture par le commerce. Les gens de Trendline font du bien, certainement, à offrir tous les billets, notamment dans cette époque d'ouverture. Donc, distribution et méthode. Et puis, je pense, dernier mot.
Allez, dernier mot.
L'environnement. Il ne faut pas penser que tout ça, c'est dépense d'énergie. Alors, vive l'énergie électrique, vive les bus électriques, vive les bus à GNL, vive les avions à économie d'énergie et vive les trains électriques. Voilà.
Merci Philippe Mangeur, président de l'agence TK Blue, agence de notation spécialisée dans le transport, spécialisée dans la mobilité. Audrey Détry nous accompagnait également, la responsable France Benelux de Trendline, donc distributeur de billets de train sur Internet. Hélène Abraham, la directrice générale de Hop Air France. Et puis Yvan Lefranc-Morin, le directeur général de Flixbus. Restez avec nous. Non, on se dit au revoir et on se retrouve très rapidement avec les décodeurs de l'écho. Tiens, ce mardi soir, il y aura Pierre Moscovici, vice-président de la Commission européenne.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.